Bonjour chers auditeurs de Radio Grand Ciel. Nous sommes dans le studio avec Nicolas Reveyron qui vient de Lyon car Nicolas Reveyron est professeur d'histoire de l'art et d'archéologie à l'université Lumière Lyon 2.
Oui.
Et la lumière, c'est effectivement le sujet qui nous réunit aujourd'hui.
Exactement.
Vous êtes un collaborateur du Centre international du vitrail quand vous avez eu l'occasion d'intervenir aux journées d'études où la lumière justement a été mise au centre des interventions et nous allons aborder effectivement le centre de vos recherches à vous. Vous êtes un grand spécialiste du bâti médiéval.
Un grand spécialiste, je ne sais pas, mais je m'intéresse beaucoup au bâti médiéval à travers notamment l'analyse du bâti par l'archéologie du bâti qui permet de décrypter beaucoup de choses, à la fois l'histoire du monument, les nécessités, les inventions techniques et notamment la lumière. Donc j'ai travaillé avec l'École nationale des travaux publics de l'État à Vaux-en-Velin, à côté de Lyon, avec des spécialistes de la lumière architecturale, la lumière contemporaine.
Alors pour le simple visiteur d'une église, la question de lumière ne se pose, à vrai dire, pas dans les mêmes termes, car aujourd'hui nous avons la lumière artificielle. Comment est-ce qu'on résolvait effectivement au Moyen-Âge le problème de l'illumination dans des grands édifices comme la cathédrale par exemple, ou même les églises de l'époque romane?
Alors je ne sais pas si on résolvait le problème, parce que le problème ne se posait pas, on vivait avec, dans le contexte qui était celui de l'époque, donc avec lumière, sans lumière, on pouvait avoir, et Catherine Vincent vous en parlera beaucoup mieux que moi, des lumières artificielles, donc tout ce qui est disons luminaires destinés à éclairer éventuellement des cérémonies nocturnes. Je pense aux veillées de Pâques, par exemple, pour lesquelles on utilisait beaucoup de luminaires. Mais c'est une vision très particulière des choses, à la mesure où on n'éclaire qu'un événement liturgique, on n'éclaire pas tout un édifice. Et notre manière à nous d'éclairer un édifice, c'est une vision totalement contemporaine. Ce n'est pas du tout ce que pouvait imaginer un homme du Moyen-Âge.
Comment est-ce que donc il illuminait l'intérieur d'un édifice, d'une église? Prenons l'exemple d'une église, puisque vous avez examiné justement le bâti.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à notre époque, l'édifice, lui, s'inscrit dans le temps de la journée, c'est-à-dire dans le temps de l'ensoleillement. Le terme d'ensoleillement est un peu faux, disons dans le temps de la journée, dans la mesure où c'est le jour qui éclaire l'édifice. Le rayon et le rayonnement du soleil, lorsqu'il est présent, c'est-à-dire par temps non couvert, n'étant qu'une modalité de la lumière. L'essentiel, c'est que l'édifice reçoive cette lumière et que l'on fasse en sorte qu'elle puisse le recevoir au mieux. Il y a donc un aspect performatif, mais un aspect performatif qui n'appartient pas à tous les siècles. Il y a une stylistique de la lumière, de la même manière qu'il y a une stylistique de la sculpture ou une stylistique des décors. Je pense par exemple au XIe siècle, avec le cas bien connu maintenant grâce aux travaux de Caroline Malone sur Saint-Bénigne de Dijon. C'est un grand bâtiment, un très vaste bâtiment doté d'une rotonde mariale à l'est, donc un grand édifice circulaire, très bien éclairé, du début du XIe siècle, dont les textes disent très précisément qu'il est très lumineux et que l'on recherche cette lumière. Je pense aussi à un autre texte contemporain de la deuxième moitié du XIe, enfin du milieu du XIe, un texte de Gosselin de Saint-Bertin, qui était moine, ayant vécu à Saint-Bertin dans le nord de la France, et ensuite ayant fait l'essentiel de sa carrière en Angleterre, qui n'hésite pas à dire, ce qui fait dresser les cheveux sur la tête, même si vous avez une très belle église dans un très bon état, n'hésitez pas à la raser pour faire quelque chose de plus beau, de plus grand et surtout de plus lumineux. Donc il y a au XIe, d'une manière générale, et il y aurait évidemment des exceptions qui confirment la règle, une recherche d'éclairement, une recherche d'éclairage qui est très proche de la recherche d'éclairage du XIIIe siècle. La grande différence, évidemment, c'est qu'avec du moellon, il est beaucoup plus difficile de réaliser les prouesses que les architectes du XIIIe siècle vont faire avec de la pierre de taille et du fer, parce que la pierre de taille est armée avec du fer, un peu comme le béton armé, donc permet toutes les audaces. Mais l'intention est exactement la même. En revanche, et c'est ça qui est très intéressant d'analyser dans le détail, en revanche, le XIIe siècle, lui, d'une manière générale, construit ou sculpte des lumières tout à fait originales. Le XIIe siècle est une époque qui aime créer des contrastes entre les parties du bâtiment. Prenez tout simplement un exemple qui me vient immédiatement à l'esprit, qui est la cathédrale, l'actuelle cathédrale d'Autun, qui était une abbatiale dédiée à Saint-Lazare avant de devenir cathédrale à la fin du XIIIe. Vous avez cette nef qui est finalement très pénombreuse, hein, qui n'est pas très éclairée. Vous avez deux baies par travée dans les parties hautes, c'est très peu de choses. Les bas-côtés sont aussi assez obscurs, même s'ils ont subi d'importantes transformations. En revanche, le sanctuaire et l'abside sont des lieux très lumineux par contraste, puisque l'abside est dotée de deux niveaux de fenêtres, trois maintenant avec un ajout au 14e. Cela veut dire qu'on a volontairement et délibérément créé un contraste entre le sanctuaire, où se déroule évidemment la consécration des espèces, et la nef qui reste au contraire dans une espèce de pénombre plus sereine.
Donc le fidèle, il va ambuler, ou les chanoines, ou les prêtres déambulent vers la lumière.
Oui, il y a de cette idée-là, c'était l'idée, vous le savez, de Michel-Ange pour Saint-Pierre de Rome, l'idée avec cette immense coupole de contraindre le visiteur à aller vers la partie centrale de l'édifice. Ce qui est très vrai pour Saint-Lazare d'Autun notamment, c'est que tout l'essentiel de l'attention du spectateur, du fidèle, c'est l'abside, et l'abside où se tient à la fois le lieu de l'Eucharistie et le tombeau de Saint-Lazare, qui est le lieu de la résurrection. Je pense qu'il y a dans cette opposition, un peu comme ce qu'on trouve à Tournus entre l'avant-nef et la nef, l'idée qu'on peut cheminer depuis l'ouest de l'édifice jusqu'à l'Orient, où se trouve justement le lieu de l'Eucharistie, qui est la promesse du salut, c'est-à-dire la promesse de résurrection. Et le jeu de lumière entre les deux doit s'orienter, à mon avis, dans cette hypothèse-là. Ce qui est certain, c'est que certains commentateurs du XIIe, je pense à Sicard de Crémone, par exemple, qui a beaucoup écrit sur cette question, montrent que ces églises longues sont un peu le symbole du pèlerinage de l'homme sur terre qui va depuis le tréfonds de l'ouest jusqu'à l'endroit de l'Eucharistie, et la longueur de l'église représente quelque chose comme l'effort qu'il fait pour atteindre l'Eucharistie. Donc nous sommes à peu près, je pense, dans les mêmes idées.
Donc non seulement on a orienté les églises, on leur donnait la direction vers l'est, mais en plus on a réfléchi sur l'organisation de l'espace, l'emplacement des fenêtres.
Oui, tout
la
à
forme
fait.
Des fenêtres aussi, vous l'avez
tout.
Oui,
tout fonctionne ensemble. Et vous avez des choses qui sont tout à fait surprenantes. Je pense à la cathédrale de Lyon. J'ai travaillé sur l'abside qui est de la fin du XIIe, une abside romane de style antiquisant, donc on est en pleine renaissance du XIIe. Abside qui est en même temps le sanctuaire d'une manière générale composé d'un calcaire dur qui se polit comme le marbre, donc qui reflète très bien la lumière. Eh bien, dans cette abside à sept pans, donc composé de sept lancettes, les lancettes sud ont été redressées vers l'est, volontairement redressées vers l'est.
On va faire une petite pause et après vous allez nous éclairer justement sur cette orientation des fenêtres. Grégorienne In Splendoribus de la Nativité du Seigneur, de la messe de minuit, nous a replongé un peu dans cette ambiance qui devait régner dans les églises romanes. Vous parliez justement de l'orientation de certaines fenêtres.
Alors l'orientation est une chose compliquée parce qu'on a des églises qui sont orientées de manière très diverse. Une orientation à l'est qui est fondamentale parce qu'elle inscrit l'édifice dans une espèce de cosmogonie. Vous avez un monde qui se crée, qui est complètement construit par rapport à des points de repère fondamentaux, qui sont évidemment le lever et le coucher du soleil, pour prendre la terminologie courante. Et l'Église s'inscrit à l'intérieur de ces points de repère. Ces points de repère qui ont une dimension aussi symbolique, avec l'Est qui représente l'arrivée du Christ, la naissance du Christ, et puis l'Ouest qui représente au contraire la résurrection. C'est quelque chose qui est très classiquement montré dans l'iconographie depuis l'époque carolingienne au moins. Donc les choses sont bien mises en ordre et la lumière interfère dans cette mise en ordre, ou plutôt elle souligne cette mise en ordre par un parcours qui se fait là aussi d'est en ouest. Ça, c'est un point qui me paraît très important. Mais de la même manière que, si vous voulez, la lumière de la journée va se dérouler d'est en ouest, c'est-à-dire dans la mesure où l'Église vient s'inscrire dans toute une journée, et la journée a une dimension liturgique, de la même manière que l'Église s'inscrit aussi, on a de très beaux textes sur le sujet, dans la liturgie de l'année, hein, par rapport justement au lever et au coucher du soleil, vous avez une Église qui va s'inscrire à travers la lumière dans l'expérience de la vie humaine. Et ça, c'est une chose très forte qui apparaît principalement dans le monde monastique, ça ne vous étonnera pas. Je prendrai un exemple le plus parlant, parce qu'on pourrait discuter longtemps de ces problèmes avec des textes à l'appui, ce serait assez compliqué. Je pense au Grand Montain, qui est un ordre très pauvre, qui se développe au XIIe siècle, principalement en Limousin et dans cette partie centrale de la France. C'est un ordre monastique qui fonctionne dans des petits monastères, ce qu'on appelle des celles, qu'elle a, qui comportent à peu près une demi-douzaine de moines, donc chose de très intime, volontairement très intime. Les églises sont systématiquement traitées de la même manière. Vous avez une nef assez longue et relativement étroite, totalement dépourvue de fenêtres sur les côtés, à l'exception bien sûr de l'ouest, mais ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. En revanche, la lumière est concentrée essentiellement à l'est par un triplet, c'est-à-dire que vous avez trois baies qui viennent éclairer uniquement l'église par l'est. Mais ce qui prouve qu'il y a intention de créer un effet lumineux et un effet de contraste entre la nef et l'abside, c'est que les constructeurs, et le projet Grand Montain d'une manière générale, il s'agit bien, bel et bien d'un projet à la fois de vie monastique et un projet aussi ecclésiologique quelque part, c'est qu'on a donné aux absides un diamètre qui est supérieur à la largeur de la nef. Ce qui veut dire que quand vous êtes dans la nef, l'abside apparaît comme une zone lumineuse sans limite. C'est d'autant plus important que nous avons, mais la chose est très difficile et c'est un travail en cours, que nous avons des équivalents dans d'autres mondes monastiques. Je pense bien sûr aux cisterciens, avec ce jeu des fenêtres qui éclairent puissamment le sanctuaire par rapport à des nefs qui sont relativement pénombreuses, les nefs cisterciennes étant souvent dépourvues de baies dans les parties hautes, hein, uniquement dans les bas-côtés. Donc le contraste est évident. Mais vous avez aussi dans des églises extrêmement développées, je pense tout bêtement à Cluny III, qui est le projet duc de Semur et un projet extrêmement élaboré. Vous avez des jeux de lumière tout aussi extraordinaires avec le choix d'un déambulatoire extrêmement clair que l'on peut restituer d'abord par calcul d'une part et d'autre part par comparaison avec une très belle église heureusement encore debout même s'il a été récemment rebadigeonné, qui est l'église de Paray-le-Monial. L'idée est de créer un sanctuaire très lumineux grâce à des colonnes qui sont d'une minceur absolument inouïe. On a l'impression que tout va s'effondrer.
Vous l'avez dit, 40 cm pour monter.
Oui, c'est invraisemblable pour monter jusqu'à 9 mètres de haut. Donc on a là un choix technique qui est invraisemblable, qui est à la limite de la rupture, qui a beaucoup impressionné à Cluny les visiteurs du 18e, qui nous ont heureusement, notamment en Mabilon, qui nous ont heureusement laissé des indications sur le sujet. Et les vies de Saint-Hugues, les quatre vies de Saint-Hugues, insistent sur le fait que c'est-à-dire le sanctuaire et le cœur monastique de Cluny III, doit être considéré comme une espèce de paradis, les moines ayant déjà franchi une partie de leur vie terrestre pour accéder au paradis dans cet ensemble de lumière et de chants. Ne pas dissocier le champ et la lumière.
Il faut le souligner, effectivement. Donc la nef, on n'a pas oublié comme un homme d'aujourd'hui pourrait le croire. On n'avait pas les moyens d'ouvrir des fenêtres. Non, il y avait une volonté derrière. Oui. Évidemment, la nef, ce sont les ténèbres et on s'achemine vers le paradis, vers la lumière qui dématérialise. Vous le dites bien, il y a ce jeu de matérialisation et dématérialisation. Faire disparaître les colonnes par une lumière qui inonde comme vous dites, l'abside.
Tout à fait. Oui, vous avez ce jeu de dématérialisation qui est étonnant, qui est physique. C'est la raison pour laquelle je me suis beaucoup intéressé à ces questions physiques, qui sont très ardues, mais je me suis fait aider, bien entendu. Vous avez affaire, avec ces colonnes extrêmement minces, à un phénomène d'éblouissement déshabilitant, comme on dit de manière très savante.
Mais expliquez-nous
c'est, ça. C'est le terme, c'est très simple. Si vous vous trouvez, vous, à contre-jour, par exemple, devant une fenêtre, lorsqu'on veut faire une photo, on va faire une photo, vous allez être toute noire, bien sûr, donc vous créez un masque par rapport à la lumière, mais en même temps, la lumière très abondante qui est derrière vous va manger complètement vos contours, donc vous affinez, hein, ce qui permet en même temps de limiter les dépenses de régime pour trouver des solutions intéressantes. Mais c'est exactement le cas pour ces colonnes extrêmement minces qui sont effectivement rongées par la lumière et qui permettent des effets lumineux tout à fait extraordinaires.
Alors, dans vos recherches, vous avez dit que vous avez essayé de comprendre un peu ces phénomènes liés à la nature de la lumière. Ce sont des ondes et je pense que nous aurons l'occasion d'aborder ce sujet quand nous parlerons des vitraux. Alors, vous avez parlé de Hugues de Saumur et puis de Cluny III. Il nous reste peu, finalement, mais on a des écrits quand même.
Oui, c'est très difficile avec le Moyen-Âge parce que nous n'avons pas rarement d'écrits techniques. Il y a très très peu de choses techniques. Vous avez le traité du moine Théophile qui heureusement apporte beaucoup sur le plan technique. C'est surtout un orfèvre.
Oui, sur le vitrail.
Notamment sur le vitrail, le texte très célèbre du vitrail dans le livre 3. Et vous avez quelques aspects très intéressants plus que des aspects d'ailleurs, dans les carnets de Villard-Honnecourt pour le début du XIIIe siècle, des choses extrêmement riches.
Des dessins, effectivement, oui.
Ces constructeurs-là, en fait, réalisaient les choses, n'en gardaient pas la mémoire, n'avaient pas besoin d'en garder la mémoire. La chose se transmettait de génération en génération et les choses évoluaient, ce qui fait qu'on était toujours dans une espèce de mouvement de création et on ne gardait pas, malheureusement, de texte sur le sujet. On peut trouver des textes explicatifs, mais il faut aller les chercher là où on ne les attend pas forcément. J'ai pu trouver, par exemple, beaucoup de choses extrêmement intéressantes dans les romans. Dans les romans et les chansons de gestes, notamment au XIIe siècle, qui sont en quelque sorte le témoignage de l'honnête homme du XIIe. Ces gens qui écrivent dans les romans leur admiration pour tel ou tel édifice, ou qui décrivent des choses merveilleuses comme ces toitures de châteaux couverts d'or, etc., etc. Ce qui pouvait être aussi une réalité, notamment dans le monde byzantin, c'est une manière de témoigner du goût moyen des hommes du Moyen-Âge ou des hommes du XIIe par rapport à l'architecture. Donc, en multipliant les points d'ancrage, en multipliant aussi les analyses physiques, l'intérêt d'analyser la physique d'un bâtiment, c'est de retrouver finalement la réalité médiévale elle-même. La pénétration de la lumière dans un édifice au XIIe et au XXIe siècle est exactement la même. La question de la stabilité de l'édifice, construire de manière qu'il ne s'écroule pas, c'est valable aussi bien au XIIe qu'au XXIe siècle, ou bien au IIIe avant Jésus-Christ, etc. Donc, à travers ces réalités strictement physiques, nous avons une expérience commune avec des gens qui ont disparu depuis plus de 800 ans. Et ça, c'est intéressant.
Lux fulgebit
Nicolas Reveyran, vous êtes un grand spécialiste de l'histoire de l'art et de l'archéologie, du bâti médiéval. Nous parlions de la lumière, son inscription dans le bâti. Et j'avais voulu intituler notre émission « Lumière architecturale, les couleurs de la vie ». Je crois que vous vous êtes particulièrement penché sur la lumière et la couleur. Parlez-nous un peu de vos recherches sur le vitrail et les couleurs dans le vitrail.
Alors je ne fais pas spécifiquement de recherche sur le vitrail, hein, si mes collègues entendaient ça, tireraient les oreilles.
Sur la lumière, on reste dans
la lumière.
Non,
mais ce qui m'a intéressé dans le vitrail, notamment, c'est qu'il est porteur de couleurs et qu'il filtre la lumière et lui donne de la couleur. C'est vrai qu'on a, et je vous renvoie aux travaux de Grodecki, hein, qui était très sensible à toutes ces questions, qui a très intelligemment mis en évidence des phénomènes, la lumière est une longueur d'onde. Donc les lumières colorées ont des longueurs d'onde, et des longueurs d'onde différentes selon évidemment les couleurs, entre le bleu et le rouge, etc. Vous le voyez bien, tout simplement parce que nous sommes à Chartres, ces vitraux qui vont combiner des rouges et des bleus, en quantité évidemment asymétrique, c'est l'occasion de faire vibrer cette lumière. Il y a un phénomène qui est purement physique, qui ne se voit pas, qui ne se constate pas à l'œil, mais qui donne une lumière extrêmement vivante. Et ça, c'est un signe aussi du goût pour le Moyen-Âge, du goût qu'avait le Moyen-Âge, pardon, pour les lumières et les lumières colorées. La couleur, c'est un phénomène qui est absolument fondamental pour le Moyen-Âge. On a redécouvert que les cathédrales étaient peintes, pour reprendre le titre dans l'Irlande de Brandenburg. Mais c'est, je dirais même plus que ça. Les lumières sont colorées d'abord parce que la lumière est naturellement colorée, c'est la lumière du soleil, ça c'est un premier point. Parce qu'en même temps, la lumière vient frapper l'intérieur de l'édifice et elle se charge tout à fait naturellement dans le phénomène d'éclairement, elle se charge de la couleur qui est portée par l'édifice, la couleur de la pierre, la couleur des badigeons, la couleur des fresques, etc. Donc on est dans un environnement coloré constant. C'est très vrai pour l'architecture romane, c'est vrai en même temps pour l'architecture gothique, même si les parties en pierre tendent à diminuer quantitativement, ce qui pose évidemment un autre problème, celui de l'absence de décors peints sur les murs, parce qu'il n'y a plus de murs, en revanche il y a des vitraux. Mais ce goût de la couleur, c'est un goût que l'on rencontre dès l'Antiquité tardive. C'est vraiment une longue continuité. Et dans l'Antiquité tardive, les textes, cette fois-ci, sont extrêmement nombreux, extrêmement riches, et nous parlent de toutes sortes de colorations qui fascinent totalement les poètes, parce que c'est surtout des poètes qui nous ont laissé des descriptions, des historiens comme Eusèbe de Césarée, pardon, ou bien des poètes comme Prudence, par exemple, ou bien Fortunat de Poitiers pour la cathédrale de Nantes. Ces couleurs, c'est la couleur, par exemple, de l'or des plafonds. Et on a des textes somptueux qui nous montrent comment le soleil vient se promener sur l'or des plafonds et finit par se charger de la couleur de l'or. Il y a interpénétration entre la lumière et l'or. C'est des évocations qui sont très belles, mais en même temps qui permettent de replacer l'or, qui est, si vous voulez, le véhicule le plus pur pour contempler Dieu, c'est une question de la contemplation de Dieu à travers sa créature et à travers ses matériaux. Donc nous sommes ici dans la forme néoplatonicienne, si vous voulez, l'orientation néoplatonicienne de la pensée chrétienne. Et puis c'est aussi les marbres dont les églises paléochrétiennes sont très riches, les marbres blancs éclatants, un peu comme la neige. Il y a des comparaisons très belles avec le blanc de la neige qui reflète la lumière et qui ont en même temps une vocation spéculaire, c'est-à-dire qui reflète la lumière comme un miroir, avec parfois des éclats de lumière qui sont insoutenables. Mais en même temps, comme c'est le cas pour la cathédrale d'Édesse, qui possédait au VIe siècle la relique du voile de Véronique, donc du visage du Christ, il y a une association étroite entre le blanc du marbre, qui est très beau, qui est resplendissant, le blanc du linge qui possède le visage du Christ, et puis la présence quasi-physique du Christ dans l'Église. Donc ces évocations sont à la fois lumineuses, à la fois mystiques, à la fois spirituelles, et totalement transcendantes. La lumière transcende tout.
Donc les matériaux sont, comme vous le dites, même choisis en fonction un peu du contenu de l'Église. On le sait que les vitraux de la cathédrale de Chartres, par exemple, sont à 75%, Claudine Lottier l'a rappelé, en lien, en rapport avec les reliques qui se trouvaient dans la cathédrale. Alors vous parliez justement de la vibration de la lumière. Vous avez eu l'occasion de nous le rappeler, que la lumière bleue vibre moins fort, 20 fois moins fort,
oui,
son intensité est moins forte.
Voilà. Voilà, c'est la question de l'intensité, vous avez parfaitement raison, c'est la question de l'intensité de la lumière, notion qui est très difficile, j'ai mis longtemps à comprendre, mais quand on rentre dedans, ça va. La couleur de la lumière fait varier l'intensité de la lumière. Je m'explique simplement. Si vous prenez des lumières de même intensité, en considérant qu'elles sont monochromes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre interférence que ces lumières d'une seule couleur. Eh bien, si vous avez une lumière d'une intensité X dans le vert jaune, cette lumière sera 20 fois plus intense, effectivement, qu'une lumière de même intense, enfin de même puissance X en rouge ou en bleu. Donc il y a des variations qui font que les vitraux de pleine couleur sont des vitraux qui sont relativement pénombreux, ils autorisent une pénombre à l'intérieur, et ça a développé, notamment au XIXe siècle, toute une réflexion sur le rapport entre la verrière et la spiritualité. Les verrières de pleine couleur, qui autorisent une pénombre, sont censées être plus favorables à la méditation, au recueillement, etc.
C'est la vision du XIXe siècle qui attribue un peu au Moyen-Âge une absence de lumière, justement parce qu'en Chartres, on a badigeonné les verrières de la nef nord dans ce souci-là de créer une pénombre mystérieuse, alors que vous l'avez dit, on recherche quand même la lumière divine et la meilleure manière de la faire entrer dans l'édifice.
Tout à fait. On recherche la lumière divine parce que d'abord on a besoin de lumière, c'est les choses simples. Simplement pour voir, enfin, il ne s'agit pas, je pense, d'autre chose. Les moines ou les chanoines qui lisent les textes ou qui chantent l'office connaissent ces chants par cœur. Ils n'ont pas besoin de texte, ils n'ont pas besoin d'ouvrage. C'est quelque chose qui est appris, qui est possédé, donc ça ne pose absolument aucun problème. En revanche, la lumière, c'est aussi cette expérience de la transcendance. Et une expérience tellement forte de la transcendance que la lumière est souvent associée dans un certain nombre de textes. On a un très beau texte à Bernard, mais le thème est beaucoup plus ancien. On a souvent associé la lumière avec l'incarnation du Christ. À savoir que c'est une expérience courante que vous avez fait comme moi, même si elle est banale maintenant, malheureusement. Lorsque la lumière pénètre dans un espace par une fenêtre, elle rentre sans casser le verre. Et elle ressort éventuellement par réflexion sans casser le verre. C'est l'image de la virginité de Marie.
Et c'est Saint Bernard qui l'a dit dans son
Saint
magnifique
Bernard
texte.
Saint Bernard l'a dit dans un très très beau texte du Di Glendo Deo. C'est quelque chose d'assez somptueux.
Saint Bernard qui luttait un peu avec l'uni parce que pour lui, la profusion de couleurs était un luxe superflu. Donc dans les églises cisterciennes, on n'avait pas les vitraux colorés. Mais néanmoins, la lumière qui traverse les vitraux était très important. Ça,
tout à fait.
La lumière qui rentre par le verre, qui ne brise pas la lumière,
oui,
c'est
fait,
une image de l'Immaculée Conception. Je regarde l'heure, ça a tellement passé vite. Mais vous avez permis de me... Vous avez jeté un pont vers la dernière musique que je propose d'écouter. C'est effectivement le troisième réponse pour la nativité de la Vierge composée par Fulbert, avec 2006 à 1028. Et ça tombe bien, c'est Solem sui justitia. Nous sommes dans notre sujet de la lumière. Je vous lis juste le texte qui sera en latin. Celle qui devait engendrer le soleil de justice, notre lumière, qu'il importe de faire entrer dans l'église. Le roi très haut, Marie, étoile de la mer, s'avance aujourd'hui vers le levant. Là, nous avons notre déambulation vers l'Orient. Et réjouissez-vous, fidèles, de contempler la lumière divine. Donc, la réponse, Solem Justitiae. Merci beaucoup, Nicolas Reverrand, aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie.
Nous remercions aussi notre cher technicien.
Oui.
Et chers auditeurs, bonne journée. Au revoir.